qu'elle fallait comprendre. Pensez que c'était la dernière, il a pris la dernière. Ils ne sont pas méfiants. Et effectivement, le monde a évolué. J'appelle rapidement quelques dates. Mussolini, il y a eu son régime fasciste en Italie en 23, je ne me trompe pas.
22, me
parle. Comment ça va? Bon, il est en 33, là,
je suis juste.
Bon, Franco en 38, 37, 38. Je ne parle pas de Staline, bien sûr, qui était là. Je ne sais pas, je crois qu'il était là, un régime communiste depuis 17. Bon, autrement dit, en Europe, les nations importantes étaient des pays totalitaires. Il y avait deux pays démocratiques, c'était l'Angleterre et la France, qui étaient toutes les deux des puissances coloniales. Mais la puissance coloniale, ça avait une connotation qui n'était pas du tout péjorative. L'Empire français, c'était la fierté. On était un grand pays parce qu'on avait un grand empire français. Aussi parce qu'on avait un passé, parce qu'on avait eu la Révolution, parce qu'on avait eu Napoléon, c'était une fierté, dont on peut discuter bien sûr, et puis parce qu'on avait eu des grands auteurs, on n'avait pas Shakespeare ni Goethe, mais on avait beaucoup, qu'on connaissait aussi. Alors on était donc un grand pays, on avait aussi des savants. Et donc, au lycée, on a grandi dans cette ambiance. Évidemment, nos parents étaient inquiets de voir l'Allemagne réarmer la Rhénanie, de voir les ambitions de Hitler s'agrandir, de le voir envahir la Tchécoslovaquie. Bon, Munich, en 39, la Pologne, et pour nous donner bonne conscience, on déclare la guerre à l'Allemagne en 39. On reste évidemment là en pied, tranquille. Encore une fois, nous pas inquiets, nous, un peu, moi en 39, j'avais 400. Alors, la foudre tombe en mai 40. Je dis la foudre, j'insiste, parce que la transition. Il est sans doute pour vous difficile de l'imaginer. On passe d'une nation qui se voulait glorieuse et puissante à un pays dominé et opprimé. Et je vous assure que le choc est extrêmement brutal, ça se passe en quelques semaines. Pour nous, qui avions donc 15 ans, alors, on reste un peu abasourdi, ça se passe donc en mai-juin. On part en vacances, parce que l'île se ferme. Et on se retrouve à la rentrée, octobre 40. Bon, on se retrouve, on sait bon, mais quoi se dire. L'ambiance est curieuse. Et c'est dans ce contexte que, autour du 20 novembre 40, mon ami Marcel Rosette, dont je vous parlerai tout à l'heure, me montre, me prend à part et me montre une photo. Une photo d'identité, celle du colonel de Gaulle. Et il me dit, il était colonel quand la photo a été prise, il est maintenant général. Et il me rappelle l'appel du juin, dont la presse s'est rendu compte, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, elle n'était pas encore complètement censurée, pas encore complètement muselée. Mais j'avoue que dans le contexte de la capitulation, c'était passé un peu inaperçu. Alors il me dit, De Gaulle est donc en Angleterre. Il poursuit la lutte au nom de la France. C'est au nom de la France. Vous paraît peut-être un peu désuet. Nous, on n'était pas spécialement nationalistes, mais la France a quand même un certain sens qui a été un peu transformé aujourd'hui. Pour dire ce qu'on en parlera. Alors, il me dit donc de Gaulle est en Angleterre. Il poursuit la lutte. Il y a des Français avec lui. Il y a l'Empire colonial. Donc, hein, il faut avoir confiance, on vaincra. Ça, ça se passe fin novembre. Or, fin novembre 41, moi, je suis persuadé que dans les semaines, d'une semaine à l'autre, on va apprendre que l'Allemagne, que les Allemands ont franchi la Manche et qu'ils seront en route. Il me paraît, compte tenu de la rapidité, notre propre défaite, pas possible que les Anglais puissent résister au-delà de quelques semaines. Bon, alors j'enregistre, oui, sérieusement, en me disant, mais c'est pas vrai, ça ne durera pas. Et puis, les semaines passent. Alors, à la suite de ça, mon ami Marcel Rossette m'apporte de temps en temps des feuilles, comme ça, qu'on appelait rendu thé, c'est-à-dire grossièrement imprimé, qui apportait quelques nouvelles. Au début, des nouvelles pas tellement extraordinaires, mais au fur et à mesure que le temps passe, ces nouvelles vont être de plus en plus précises. Elles vont compléter utilement la presse habituelle, qui est, elle, de plus en plus sous contrôle. Autrement dit, ces documents vont être de plus en plus intéressants. Alors, bien sûr, au début, la photo, il me la montre et il la garde. Les documents, on les montre uniquement à un ami, deux amis actuellement. C'est dangereux, évidemment, c'est strictement interdit. Cette période où on est uniquement raccroché à ça, c'est anodin, c'est feuille, mais on a que ça pour s'accrocher. L'Allemagne domine de plus en plus l'Europe, et on ne voit pas la fin. Malgré tout, on constate que l'Allemagne n'envahit pas l'Angleterre. Bon, mais on sait que ça peut venir la semaine suivante. Arrive juin 41, vous l'avez appris, l'Allemagne envahit l'URSS. Alors, ça a un double impact sur nous. Premièrement, si l'Allemagne se tourne vers l'URSS, ça veut dire qu'elle ne va pas envahir l'Angleterre tout de suite. C'est important, très important. Autrement dit, l'espoir qu'on avait, il grandit sensiblement. De plus, on a toujours l'espoir que, comme Napoléon, l'Allemagne vienne s'enliser dans l'URSS. Ils avancent pourtant à une vitesse foudroyante. Puisqu'en octobre, ils se déportent de Moscou, la presse annonce, je m'appelle la tenaille autour de Moscou se referme. Et on a des cartes où on montre que c'est presque terminé. Et puis, la tenaille ne se referme pas tout à fait, ça dure 15 jours. Et puis, arrive un moment où l'hiver s'installe. Et bon, on constate que la tenaille s'est refermée. De fait, les Allemands sont obligés de refluer. Alors, c'est pour nous très important. On a maintenant, d'une part, l'Angleterre, dont on pense qu'elle va porter le coup compétent. D'autre part, l'URSS, qui n'a pas été complètement envahie et succombée dès les premiers mois. La guerre s'installe avec un certain équilibre. Alors, nos documents circulent, ils sont de plus en plus complets et ils sont de plus en plus nombreux. On se contente de ça. Notre résistance, ce moment-là, c'est ça. C'est recevoir, diffuser, avec beaucoup de prudence, montrer les documents, en laisser quelques-uns, parce qu'on en a parfois des copies. Les photocopies, ça n'existait pas à l'époque. Alors, bon, ça, c'est 41. Fin 41, c'est pour l'amour. Pour l'amour, c'est l'entrée en guerre des États-Unis. Vous me direz, c'est aussi le Japon, et qu'à cette époque, le Japon a une puissance de feu, une puissance d'armée considérable. Oui, c'est vrai, mais nous, on voit surtout l'aspect États-Unis. Les États-Unis en temps de guerre contre l'Allemagne. Ça, c'est pour nous extrêmement positif. Il faut, si je vous dis tout ça, c'est parce que je voudrais bien vous faire comprendre quel était le désespoir de ces années fin 40 et 41. Où on est ravalé au rang de serviteur d'Allemagne. On le ressent parce que avec le ravitaillement, bien sûr, mais on sent cette pression constante, même si, comme vous le savez aussi, la France était divisée en deux zones, la zone nord, zone occupée, qui comprend toutes les frontières, et la zone sud, dite zone libre. Alors, d'autres zones libres, pourquoi ? Parce qu'il y a un gouvernement français. Hein ? Contrairement à des pays antiques qu'on a nommés en Gaulle, là, on a un gouvernement français. Le maréchal Pétain, maître de l'ordre. Alors, qu'est-ce que c'est le maréchal Pétain ? Il est certain qu'à ce moment où on est quand même encore que 15 ans après la guerre de 14, où nos parents qui ont fait la guerre n'ont guère que 40-45 ans. Le vainqueur de Verdun, hein, ça les touche. Alors, et puis, quoi d'autre, hein ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas rester frapper la poitrine. Hein ? Pétain, nous parle de révolution nationale. Il dit, on a été trahis parmi nous. Bon, effectivement, nous, on pense qu'il y a des gens qui n'ont pas été à la hauteur pour que la débâcle soit aussi rapide et aussi radicale. Alors, la plupart des Français se raccrochent à cette idée qu'il faut partir en 2 novembre, qu'il faut créer un autre système d'éducation de jeunesse. C'est l'époque d'une espèce de glorification de Pétain, une espèce d'idolâtrie. On hisse les couleurs le matin, on chante la chanson à la gloire du maréchal, ça fait un peu cucu, on prend un peu de distance, pas trop, arrivent les lois antisémites, assez rapidement, on se rend compte que Pétain, non seulement résiste pas beaucoup aux exigences d'Hitler, mais qu'il va parfois au-devant, et avec le loi antisémite d'octobre, on a un exemple qui n'est pas diffusé tout de suite, qui pénètre doucement la population. Malgré tout, il faut savoir que fin 40 et 41, le nombre de personnes qui sont adhérentes à une idée de résistance, je ne sais pas employer un terme, ça représente 1 ou 2 personnes sur 100 000. C'est, ayez bien conscience, cette infime minorité. Elle est un peu plus importante dans cette région, la région de Bourg, la région de Lyon, mais elle reste très très faible. Elle va grandir tout doucement, mais oui, tout doucement. Elle va grandir au gré d'une part de l'infortune des armées, c'est sûr, et puis aussi d'une certaine prise de conscience que la domination est tellement radical, est tellement raciste, qu'il faut, on ne peut pas l'accepter. Alors, malgré tout, et ceci rapidement, le régime de Pétain, il a connu quelques évolutions. Il y a eu, je crois que vous ne l'avez pas fait, la période de Laval. Laval, qui était encore plus pro-allemand, il avait dit qu'il souhaitait la victoire allemande, qui a été écarté par Pétain, et que les Allemands lui ont réimposé. Alors là, quand Laval est revenu au pouvoir avec Pétain, je crois que ceux qui ouvraient un peu les yeux, il n'y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup qui pensaient qu'il valait mieux garder les yeux baissés. Ils ont compris que cette fois, la direction que prenait l'État français était claire. Alors, donc, pour nous, la résistance, donc, au début, une information qu'on transmet, de plus en plus d'informations se fait par écrit. En 1942, on commence à avoir des documents un peu mieux rédigés. En 1943, on a des journaux. Vous connaissez ces journaux ? Vous les connaissez, ces journaux ? Donc, si vous voulez, je vous en montrerai si vous voulez, j'en ai quelques sens à moi. Les journaux, alors je précise, on a des journaux, on a à Birkheim, qui est imprimé à Bourg, d'autres sont imprimés à Lyon, la région est active. 42, c'est le débarquement des Américains au Maroc. Bon, évidemment, très important pour notre morale. Mais les Allemands comprennent vite le danger. Et ils envahissent la zone sud, autrement dit, cette fiction d'une France libre disparaît. Je remarque malgré tout que la flotte française, qui n'était pas comprise dans les conditions d'armistice, dont la reddition n'était pas comprise dans les conditions d'armistice, et qui était pour partir à Toulon, pour partir dans ces Québécois, je peux en parler, bref, se saborde. Les Allemands envahissent la zone sud, mais à l'arrivée des Allemands, la flotte saborde. C'est bien. On est donc fin 42, c'est aussi autre chose. Les Allemands, qui, après avoir orienté l'axe de leur attaque en direction de Moscou, l'année suivante, on n'a pas de carte, enfin, je ne sais pas si vous avez ça en tête, l'année suivante décide d'attaquer en direction du Caucase. Pourquoi le Caucase? Pour deux raisons importantes. La première, c'est qu'il y a Bakou qui est en pétrole, les Allemands manquent de pétrole. La deuxième, qui est peut-être encore plus importante, les transferts d'armement qui viennent d'Amérique en direction de la Russie, tout le matériel transite par l'Iran et le Caucase. Et il est certain que si les Allemands avaient réussi à couper cette route d'approvisionnement, ça aurait été pour l'URSS. Un danger majeur. D'où la résistance à Stalingrad. D'où la résistance désespérée à Stalingrad. Il faut avoir conscience de ce qu'est Stalingrad. Vous savez, Prousset, ce Volcar, on sait que si on franchit Stalingrad, la route au Caucase est pratiquement ouverte. Résistance désespérée, je vous savais qu'il y a des bouquins excellents là-dessus. C'est horrible, on se bat maison par maison. Je crois qu'il y a eu 1 500 000 morts aux Russes. Mais les Allemands y croient, Hitler y croit jusqu'à la fin. Il y croit tellement que quand von Paulus, le commandant de l'armée, propose de se retirer, il lui interdit. Le résultat, vous avez fait ça. Bon, résultat. Les Russes attaquent par le nord, coupent l'armée de Allemande, qui est obligé de se rendre, et ça fait 300 000 prisonniers. Bien sûr, nous, on accueille ces nouvelles avec enthousiasme. On suit, on cherche une carte, avec des épingles, on suit les progressions, les retraits d'armée allemande. Alors, on arrive donc en 43, Stalingrad. Bon, les Allemands ont battu. Les Allemands sont obligés de se retirer. Ils sont perdus parmi Saint-Paul. 43, c'est le début de l'organisation de la résistance. Jusqu'ici, il existe différents réseaux, mais ils sont plus ou moins organisés. À partir de 43, ils s'organisent, même 42. Et nous, ici, on appartient à un réseau qui s'appelle FUJP, Fusion Team. Force unique de jeunesse et patriote. Des jeunesses et patriotes. Il se trouve qu'un sourire général qui s'appelle Orange est un des dirigeants nationaux des FUJ. Alors, il s'organise avec en particulier deux. L'un, c'est celui de Marcel Denon, et puis l'autre, c'est celui de Edgar II. C'est pas le mot. On est en 43. On a donc un réseau organisé depuis quelques mois. Mais Barlange est arrêté à peu près ce mois-là, et curieusement, on ne relève pas de charge suffisante contre lui, il est relâché. Il sera malheureusement réarrêté plus tard et fusillé. un mois ou deux mois après, je crois que c'est en mai, pour le mois, hein, est arrêté à son tour. Quelques jours plus tard, notre prof de chimie, Marcel Cochet, est également arrêté. Autrement dit, oui, que 5 mois après que les Allemands aient envahi la zone sud, la Gestapo s'est installée dans le pays. Nos simples transmissions de tracts qui peuvent paraître relativement anodins ont une conséquence sur nous directe. C'est notre arrestation avec les conséquences diverses que ça peut entraîner. Donc, on est incité à davantage de prudence. Je crois que je vais passer vite. Davantage de prudence. Malgré tout, il faut diffuser. On diffuse de plus en plus. Les arrestations se poursuivent. Personnellement, moi, je suis donc chef de sixième, c'est modeste, mais en même temps, dans mon pays arbant, près de Lyon, je diffuse des journaux à une quinzaine de personnes.
Une sixième, c'est six résistants, c'est ça?
Oui.
Donc une sixième, c'est une organisation de six résistants. Oui,
il y avait les sixièmes, les trentaines. Ensuite, de chez on poursuit en 43. 43, c'est l'année où moi je rentre en terminant, matériellement terminant S. Il faut penser un peu à travailler, je pense un peu. Pour connaître que ça pèse la résistance, ça pèse toujours. Et on arrive en 44, je vais donc un peu plus vite. On arrive en 44 avec une date importante pour nous du monde. C'est le 5 juin. Il existe le bac se passe en deux parties, à la fin de la première et à la fin de la terminale. La première partie se passe une semaine et la semaine suivante, c'est le bac terminal. Nos épreuves à nous commencent, je crois, le 3 juin. Il y a une épreuve qui est reportée parce qu'il y a une alerte. Bref, le matin du 5 juin, on planche en philo. Et vers 11h du matin, on entend des tirs de mitraillettes. Les miliciens étaient dans la ville depuis le temps, ils tirent un peu à droite à gauche. Mais là, on entend un tir nourri et proche. Bon, on écoute un instant, puis bon, ça s'arrête, mais on continue. On va manger et on se retrouve dans la cour d'honneur avant l'épreuve de l'après-midi qui est l'épreuve de maths, l'épreuve majeure, il faut qu'on ait en terminale. Et vers 1h20, 1h30, je suis relativement pressé, un élève de première qui a donc passé son bac, je vois avant son premier bac, vient me trouver. Il me dit, je viens de la part de Jean-Marie Bergen. Qui était mon chef de trentaine. Et il me dit, ils ont eu ce matin un accrochage à la trésorerie générale avec les miliciens. Il y a eu un blessé et ce blessé a été fait prisonnier. Il est vraisemblable que compte tenu des méthodes des miliciens, il sera amené à parler. Et vous aurez peut-être intérêt à prendre large assez rapidement. Bon, moi, je suis sixième aussitôt. Je pose la question, est-ce qu'on part tout de suite ou est-ce qu'on passe quand même la dernière épreuve du bac? Bon, on décide de passer la dernière épreuve du bac. Alors, on entend ça. Ça qui est à côté, là, la cour d'honneur, à droite, on entre. Et vers 4h, moins le quart, on entend des tirs de mitraillettes. Qui se rapproche, on entend du bruit, donc on n'est pas bien la raison. Et tout d'un coup, il y a un milicien qui rentre dans notre salle et qui, assez brutalement, nous expulse. Et moi, j'entre, appelez mon nom. Alors, je me présente dans le cabinet. Il y a le général Agostini qui est là avec ses officiers, tous les prof-élève se rassemblent dans la cour, juste un petit buisson, un passage vide au milieu. On me conduit vers d'Agostini. Bonjour, qui me balance quelques coups de poing, un coup de pied, les autres aussi, je trouve, bref. Bon, et je rejoins mes camarades. Contre le mur, ce qui était à ce trottoir-là, en face de l'entrée de Coton. Et je vois mes camarades tous alignés. On était 10. Les 10 de notre réseau qui ont présenté. Bon, alors tout à l'heure, je vais parler d'une transition. La transition, la France libre, la France occupée. Et bien là, il y a la transition de homme libre à homme en Chine. Et c'est dur, c'est dur. Les premières minutes sont très dures. Et ensuite, il faut réagir. Il faut réagir parce qu'il y a une suite. On nous promet aussi dans le commercial. Ce qui est évidemment sérieux. Mais en attendant, on va fouiller nos affaires. Or, dans mes affaires, il se trouve que, je vous l'ai dit, qu'on a fait aussi du maniement d'armes, bien sûr. On ne se contentait pas de diffuser des journaux. Mais dans une ferme voisine de Bourg, on allait s'initier au maniement d'une mitraillette Sten. Et moi, j'avais demandé, on nous parlait aussi d'autres armes. Je savais qu'il y avait une arme intéressante qui était le fusil mitrailleur. Et j'avais demandé qu'on me confie une notice de maniement du fusil mitrailleur. C'est un papier grand comme ça, mais un papier huilé, très fin, que j'avais plié en 8 et que j'avais mis dans la poche. Et ce pantalon, il était au dortoir, sur ma table de nuit. Et les miliciens commencent par fouiller le dortoir. Et mon lit était le premier en entrant à gauche. Et je ne gâche pas mon émotion. Alors, je vois le milicien qui s'avance. Mon lit était une espèce de chaise comme ça, mon pantalon comme ça. Le ministre s'avance, d'ailleurs, il passe les mains comme ça, du pantalon, et il a l'impression, il pense qu'il y a. En réalité, il cherchait surtout une arme. Mais le papier est fin, je lui en parlerai. Bon, il continue, il fouille tout, il balance tout, il n'y a rien. Bon, ensuite, on va fouiller les autres. Moi, j'ai des cartes d'état-major. Pour l'histoire du maquis, enfin bon, je passe, ça me vaut quelques coups, parce que, mais il ne trouve rien. On nous emmène tous à Saint-Amour, c'est la carte générale, et là-bas, on passe à l'interrogatoire. Alors, interrogatoire, je en parle, un interrogatoire, ça, il faut, pour moi, ça se passe qu'il y a deux miliciens qui me tiennent avec les bras dans le trou, et deux autres qui frappent quand on leur dit de frapper. Un coup de pied, un coup de poing, etc. Bon, et pendant ce temps, il y a en face du jeu, le général d'Agostini avec ses officiers, sa maîtresse, la maîtresse qui était une belle fille, derrière lui, avec quelques miliciens droite à gauche. Laurent nous interroge, et puis. C'est un grand moment. C'est un très grand. C'est un moment où il faut faire un profil bas et surtout être extrêmement lucide. Un interrogatoire, c'est un peu un écheveau. Si on trouve un fil, on va le tirer. Et tout va se dérouler. Il ne faut pas de fil. Il ne faut rien laisser passer. Et j'ai eu la chance, à ce moment, moi, je parle pour moi, bien sûr, où je me sentais très lucide. Et ça m'a servi, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez. Bon, là-dessus, alors on me dit bien sûr, est-ce que tu étais résistant ? Non, je ne suis pas résistant. Mais j'en ai encore parlé, un petit peu notre affaire. On savait que Jean-Marie était connu, présent était connu, son nom était connu. Notre ligne de défense, c'était notre ami Jean-Marie. Nous a demandé de diffuser des tracts pour faire plaisir à Jean-Marie. On a diffusé des tracts. Bon, c'est tout. Alors là-dessus, on écarte un rideau de ma couche, et derrière, il y avait une civière sur lesquels était Aton étendu. Roger, notre camarade qui avait été blessé, était prisonnier le matin. Dieu, il était allongé, il avait un large bandeau, il avait pris une balle dans l'épaule. Et il était blanc. Moi peut-être aussi. Et D'Agostini lui demande, alors est-ce qu'il faisait partie de la résistance? Et il dit oui. Bon, là-dessus, on fait un retour. Alors il fallait que je me débrouille avec ça. Bon, je m'en suis relativement bien sorti. J'ai été interrogé deux autres fois, je vous en parlerai éventuellement tout à l'heure. Sur ce, hein, comment le fait d'interrompre les épreuves du bac à Bourg, avec quand même une certaine émotion, les hommes politiques du département sont quand même intervenus. Est-ce que on a des preuves contre eux? Est-ce qu'on a des charges lourdes, hein? Et les charges lourdes, on n'en a pas beaucoup, sauf cette histoire d'attaque impressionnante. Hein, mais ce n'était pas contre nous. C'était des camarades à nous. Alors, finalement, au lieu de la commerciale, il faut dire, en même temps, le mec qui avait bloqué la ville de Bourg, bref, ça retarde un petit peu, on décide, au lieu de nous traduire en commercial, hein, de nous envoyer en Allemagne. Alors, on a donc été envoyé. Et on est arrivé dans un camp, qui est un camp mixte. Je dis mixte parce qu'il y avait de tout, il y avait des STO, on parlera du STO tout à l'heure, le service travail obligatoire, c'est des gens qui avaient été requis pour les travailler en Allemagne. Il y avait des réfractaires au STO, c'était des gens qui avaient échappé au STO et qui avaient été arrêtés, qui avaient été envoyés de force en Allemagne. Il y avait des prisonniers de guerre punis, qui s'étaient évadés, et qui était dans un camp spécial. Il y avait des. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Des gens qui étaient récupérés dans les prisons de la banlieue parisienne, qui appartenaient au milieu des voyous de la banlieue parisienne. Non pas que la banlieue parisienne était voyous, mais il y a. Alors on se trouve intégrer là un espèce de mélange. Pourquoi? Par chance, incontestable. On n'était pas dans un camp de concentration, on était dans un camp de représailles. La différence est importante, parce qu'on était regardé par des SS. Mais, malgré tout, pour ce qui me concerne, j'étais amené à travailler de nuit. C'est-à-dire qu'il fallait que je parte à 17h, 1 heure de marche, 12 heures de travail, 1 heure de retour. Et ceci, au début, 7 jours sur 7. Le travail qui est parfois très, très dur. Pas toujours, mais parfois très, très dur. Bon, après, on a travaillé 6 jours sur 7, au bout d'un mois, un mois et demi ensuite. Et puis, on a maigri peut-être 15 kilos. Et puis, on s'est retrouvé avec un certain équilibre physique. On a pu recommencer à penser un petit peu. Et je me suis dit, moi, il faut que je fasse mon boulot et que je m'échappe de ce piège. Alors j'avais imaginé de partir, je ne sais pas si oui ou là, ou si les signes, donc au sud de la Pologne. J'avais imaginé de partir à travers la Tchécoslovaquie pour passer l'Autriche, et d'Autriche franchir les Alpes. Bref. J'avais trouvé une filière qui pouvait me procurer des papiers d'identité qui ont tardé. Bon, je me retrouve. Fin novembre, sans mètres évadés. Et je me dis, ça va durer. Et je décide de devenir clandestin. Donc, je ne vais plus travailler. Alors, évidemment, c'est difficile de voir vivre. Et puis, ça me fait un risque énorme. À côté de notre, tout près de notre camp, il y a un camp qui s'appelle Plehama, qui est un camp qui dépend d'Auschwitz, où la discipline est extrêmement dure. Ça nous sert quand certains d'entre nous ont commis quelques méfaits, même relativement anodins. Ils sont envoyés là-bas pour un bout de Et si on avait déjà perdu 10 ou 15 kilos, ils en prennent. On perd encore 10. Hein, ils rentrent scolytiques. Bon. Et puis on apprend par une existence effectivement d'un autre camp culturel qui a suivi Auschwitz. Alors, on est donc. Moi, je suis clandestin à partir du 27 11 44. Je survis, les fêtes de Noël arrivent. Les fêtes de Noël sont pas gaies. Je me suis recul point, j'étais un prudent. Début janvier, heureusement, on entend le canon. Les Russes, qui étaient jusqu'ici à une centaine de kilomètres, viennent d'attaquer. Alors, je décide aussitôt de m'évader, non plus à travers la Tchécoslovaquie et l'Autriche, mais d'aller au Danube. Et c'est ce qu'on fait. Alors, on a parcouru les lignes de front. On s'est battu pendant la guerre de 14, il y avait une des tranchées qui était à 50 mètres des autres. Hein. Là, c'est des attaques d'un côté, c'est attaques de l'autre, c'est des replis, etc. On a mis 8 jours à traverser les lignes avec où notre vie a tenu. Une fois en particulier, à véritablement un fil, une question de seconde. Bon, je passe à travers cette comment dire. Je ne sais pas comment qualifier ça. Mais c'est cette période d'une intensité considérable. Parce qu'on circulait entre les lignes. Et effectivement, la mort était là. La nôtre était un risque. Mais on a parfois vu, moi j'ai vu, des tas de bois. Où les hommes étaient empilés. Je veux dire qu'ils étaient à moins 20, en 15 moins 20. Étaient empilés comme des bûches de bois. Sur une hauteur de 1 mètre. Et sur 50 mètres de long. Et il y avait plusieurs fils. On voyait des morts au bord de la route qui étaient passés, etc. On vivait. Et le canon qui tenait de tous les côtés. C'est une période de. C'est 5 jours à peu près. Bon, ils sont passés. J'en parlerai un petit peu. On a donc traversé les lignes et on est parti vers l'est. On est arrivé à Cracovie, on est arrivé jusqu'aux confins de l'URSS, pas de l'OFF, et puis on a décidé de remonter à l'Ukraine. J'ai pu prendre contact avec des Polonais, où j'ai vécu pendant 2 mois. Ensuite 2 mois en Russie. Ensuite je suis rentré par Odessa. Alors là, je vais appeler votre géographie. Embarquement au-dessus. Moi, j'étais jamais allé au-delà de Bourg. J'étais au-dessus. J'ai vu la première mer, j'ai vu la mer. Le Bosphore. Istanbul, l'escale Istanbul. Les Dardanelles. Mon père a été blessé presque juste 30 ans par an. La mer Égée. Tout ça prend un temps superbe. Moi, il y avait 5 mois. Ah, j'étais libre, j'avais donc retrouvé ma condition physique. Je dormais 2 ou 3 heures par nuit. J'ai profité de cette croisière extraordinaire. Je dormais sur un banc large comme ça, c'était pas mon problème. Ensuite, pour Saïte, la Méditerranée, le détroit de Messine, escale à Naples, Bonifacio Marseille, je rentre le 10 juin. Le 10 juin, 45. C'est-à-dire un an et 5 jours après mon départ. Bon, je crois que j'en ai assez dit. Je vais vous laisser la parole, du moins m'interroger.
Allez-y. Tu parles pas parce qu'on enregistre aussi. Je me dis.
D'accord. Alors, j'aurais aimé savoir pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans l'instance. Est-ce que c'était sous l'influence des amis?
Pour ce qui me concerne, d'une façon toute naturelle, j'étais, comme tout le monde, obsédé par l'idée que on vivait dans la servitude et quand mon camarade et ami Marcel Rosette me montre une photo de moi, oui, je respire, je me dis, tiens, c'est pas complètement foutu. Bon, alors, ça commence comme ça. Et puis ensuite, bon, ensuite les textes dont je vais parler, tout doucement, qui évidemment motivent davantage. Et la motivation vient évidemment également des événements humains qui sont par la suite relativement positifs. Mais mon engagement était progressif. Il y en a qui vous disent, moi je me suis engagé récemment, tel choix, tel an, j'ai pris un engagement. Moi je ne peux pas dire j'ai pris un engagement. Mais de fait, j'étais dans cette voie. Alors, si on me disait, votre résistance a commencé à partir de quand? Bon, mais je peux la faire dater de jour-là. Je ne saurais pas fixer une date. Bon, par la suite, évidemment, j'ai distribué des choses. J'ai une vie beaucoup plus active. Mais elle a commencé. Donc, de façon très progressive. Et toute naturelle. On ne retrouve jamais. Ceux qui ont vécu le camp de concentration ont vécu autre chose. Il est certain qu'eux, ils ont vu les gens tomber immédiatement à leur côté. Je ne parle pas de ça. Je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu une fille d'aventure, mais dont je suis resté, en principe, le moteur. J'ai vécu la résistance avec une intensité considérable. Je l'ai vécu au jour le jour. Je peux dire, oui, je demeure, j'ai une question un peu voici. Quels sont mes grands moments de résistance? C'est mon premier interrogatoire. Je m'expliquerai là-dessus si vous voulez. C'est mon évasion. Bon, alors pour en venir plus précisément à votre question, oui, il y a un moment où la mort est autour de vous. Bon, il est certain qu'à partir du moment, où j'ai été clandestin, je savais que si je me faisais prendre, j'avais pas beaucoup de chance de survivre. Mais à partir du moment où je me suis évadé, là, la mort a été autour. Il y a un moment où on a été suspecte par les Russes, et les Russes ont failli nous fusiller à quelques secondes près, si on n'avait pas eu une intervention, à un moment donné, de celui qui nous avait arrêté, et qui était un lieutenant de la NKVD, c'est-à-dire des services secrets, et qui a arrêté, lui, lieutenant, les trois capitaines qui étaient en train de nous tabasser, et dont deux avaient déjà armé nos mitraillettes, sachant que dans la cour, il y avait justement des rangées de corps comme ça, et que la bataille, une bataille qui vient d'avoir lieu, notre vie tenait à rien. On était au deuxième étage de l'immeuble, et moi, avec mon copain Truand de Paris, eh bien, on était à côté de la fenêtre, et j'ai dit, il faut passer par la fenêtre. Bon, on avait, en passant par la fenêtre, une chance de survie de quelques secondes de plus. Parce que dessous, il y avait des Russes partout. Mais il devenait certain que dans la pièce où on était, notre exécution était là, tout de suite. Bon, on en a eu d'autres, moins présentes, mais il est certain que la mort était prête. Alors que ça nous a laissé des marques, oui. Je vais vous dire. Vous savez, ça a créé une espèce d'insensibilité. Je vous parlais tout à l'heure d'autre chose là, un sujet. Mais au cours de notre évasion, on a croisé des gens qui étaient échappés à Auschwitz. Bon, il y avait. Par miracle, c'est sûr, parce que c'était l'extermination. et qui nous avait expliqué ce qu'était Auschwitz, ce que personne ne savait. On doutait, hein, on s'en doutait. On disait il y a des camps entre dieux, hein, mais on ne savait pas si c'était vrai. Mais on pensait jamais, et personne ne pensait, ça pourrait être l'extermination systématique. Nous, on l'a appris, ils nous ont dit. Je vous rappelle, il y en a un. Hein, il nous répétait tellement pendant la journée qu'on a fini par le laisser dans une famille polonaise, gentiment, mais qu'on ne pouvait plus supporter. Il répète ça. Il était, je le comprends, complètement obsédé par ce qu'il venait de vivre. Donc on a su ce qu'était Auschwitz. Mais quand on est arrivé à Lublin, à côté de Lublin, il y a un autre camp qui est un peu moins important dans Auschwitz, mais il y a eu des extrémistes ici aussi, qui s'appelle Majdanek. Et moi, je suis allé à Majdanek, à pied. Et à l'entrée du camp, il y avait une espèce de petite cahute. Et dans cette cahute, et qui dépassait la cahute, il y avait un tas à peu près de cette autre, qui avait à peu près 5 mètres de large, un tas de chaussures d'enfants. Des chaussures longues comme ça. Preuve irréfutable, bien sûr, qu'on exécutait non seulement les grandes personnes, ce qui est déjà affreux, hein, mais les enfants. Eh bien, je me rappelle très bien de ça. Je me reprochais, pour répondre à la question, de ne pas ressentir l'émotion que j'aurais dû ressentir. J'avais conscience de l'émotion que j'aurais dû ressentir. Et je ne l'éprouvais pas. Parce que quand on a passé la vie de la mort comme ça pendant si longtemps, on n'est plus tout à fait pareil. Ça ne m'a pas empêché de prendre une chaussure d'enfant. Hein, je me rappelle une chaussure blanche à Brite. Hein. Et bon, oui. Bon, mais effectivement, il n'y a pas de doute que ça marque la vie. Je ne parle pas, encore une fois, de ceux qui ont vécu à l'intérieur des camps de concentration, ou, bon, certainement, ou autre chose, et d'autres choses. Moi, je parle de moi, je suis là pour vous parler. Ah, je vous parle de moi. Bon, la mort, effectivement, est connue, et ça marque, évidemment, toute une vie. D'abord, les seuls héros sont morts. Et moi, apparemment, je ne suis pas mort, moi, je ne suis pas un héros déjà. Mais même si j'étais mort, peut-être, parce qu'il y a des gens. Non. Alors, ça, c'est pas. Surtout, moi, je ne viens pas ici pour que vous pensiez un instant à ça. Chacun de nous a vécu des moments. Moi, j'ai conscience dans ma propre intimité des choses que je n'oserais pas vous dire, d'avoir eu parfois. Des attitudes courageuses. Bon, mais écartons définitivement le mot de héros. Le courage, peut-être, hein, mais je vais vous citer un exemple de courage dont je suis un peu honteux. C'est celui d'avoir été clandestin dans un camp. Je suis clair, c'est complètement con. Hein. J'ai risqué ma vie pour rien. Uniquement pour moi, hostile. Ridicule. Complètement ridicule. Alors, bon, oui, il y a d'autres choses qui sont bien. Oui, sans doute. Et, non, encore une fois, écartons, en tout cas pour ce qui me concerne, définitivement le mot de héros. Mais, vous savez, dans la vie, une vie de résistance, il y a des moments où vous êtes porteur de quelque chose. Mais d'abord, je n'aime pas cette espèce de glorification. Bon, il en faut, il faut des Jeanne d'Arc, il faut des Versailles de Rix, bon, d'accord. Hein. Bon, non seulement je suis ni Jeanne d'Arc, ni Versailles de Rix, mais j'aime pas bien. Hein. Il est impossible. Si vous voulez, moi, quand je prends mes camarades, je suis incapable d'établir une hiérarchie relativement précise, hein, de leur degré de courage ou d'abnégation. J'en suis incapable. Et il n'y a qu'en soi qu'on sait. Mais c'est des choses qui ne peuvent pas se dire parce que c'est des choses subjectives. On a eu, on a décidé de faire ça. Bon, il y a des fois que ça a été stupide, d'autres fois moins stupide. Il y a certains qui ont risqué sa vie pour son pays. Moi, je ne suis pas là pour parler, pour dire c'est ce qu'il faut faire, du tout. Je dis au contraire, engagez-vous, oui, engagez-vous. Ça, alors, je peux vous le répéter tout le temps. Mais ne risquez pas votre vie. Alors, il y a peut-être des moments où c'était nécessaire, peut-être, mais je me force de ne pas le savoir. Je ne peux pas. Ça sacrifie sa vie. On a... J'en parlais tout à l'heure. Quand on était enfermé par la milice, à côté de ma cellule, il y avait un gars qui s'appelait Venet. Il avait été arrêté en combat contre la milice. Et ce type avait une éloquence, une capacité d'expression considérable. Et à travers les barreaux, il interpellait les miliciens qui passaient, les apostrophait violemment, et puis il leur disait leur quatre vérités. Mais il était percutant. Alors au début, ils l'ont pris, puis ils l'ont tabassé. Une fois. Bon, puis ça a recommencé. Deux fois. Et puis, même les officiers étaient incapables de répondre aux arguments de Lopez Scala. Moi, dans ma cellule à côté, je me disais, mais il faudrait quand même qu'il s'arrête, parce qu'il risque trop gros. Il ne s'est pas arrêté. Alors ils l'ont pris, et puis ils l'ont tiré un coup de mitraillette dans le dos. Je trouve que c'est dommage. Venez, et est un héros, oui. Bon, mais quelle signification ça a ? Je ne sais pas. Moi, je salue. Je salue, bien sûr. Mais c'est pas un exemple. Non, il faut préserver sa vie. Il se serait tué, le résultat aurait été à peu près le même. Il dira que ajoute un petit plus, c'est toujours bien. Mais attention, ne risquez pas votre vie. La vie, c'est trop précieux. Pensez, vous savez, moi, j'ai une obsession dans les moments difficiles. C'est curieux. Puis alors, quelque chose de précis. J'ai mes parents habitent une maison dans le village d'Arban. Et c'est quatre personnes qui descendent mon cercueil. C'est insupportable pour moi, excusez-moi, je peux le dire. Il faut savoir que vous avez des parents. J'espère que vous avez tous vos parents. Que vos parents, c'est extraordinaire. Vous aurez un amour pour quelqu'un de ses opposés, c'est très bien. Mais l'amour des parents est en général définitif et total. Alors, leur faites pas trop de peine. Bon, enfin, encore une fois, n'engagez pas votre vie. Mais par contre, allez-y, engagez-vous. Parce que autant la guerre de 1945 a surpris le monde. On ne pensait pas que tout 13-14 ans, après la guerre de 14, il puisse éclater avec cette hargne, avec cette inhumanité. On ne pensait pas. Eh bien, moi, je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais je pense que le danger existe aujourd'hui, dans des questions toutes différentes, mais avec un degré de danger qui est peut-être plus grand. Alors, engagez-vous. Engagez-vous, faites de la politique au sens philosophique du terme. Soyez lucide, soyez conscient. Si j'ai quelque chose à vous dire, c'est ça. C'est ça. Alors ça, c'est un problème. C'est un problème qui a été résolu de la façon la plus simple possible. J'ai eu la chance extraordinaire d'une certaine désorientation à cette époque. Bon, c'est sûr que le front russe approchant, les contrôles qui étaient habituellement extrêmement stricts sont devenus moins stricts. Et après une période où j'ai cherché à m'alimenter en allant chercher une nourriture à l'extérieur du camp, je m'expliquerai éventuellement. J'ai plus eu comme solution que celle de la nourriture classique du camp, où j'étais pas déclaré, évidemment, clandestin. Alors j'ai profité de ça pour aller, comme tout le monde, chercher ma nourriture dans le camp. Mais, bon, encore une fois, je répète, absurde. Alors, comment expliquer que moi, j'arrive pas à me départir d'une certaine fierté de ça, c'est un truc incompréhensible chez moi. Comme ça. Mais je ne vous demande pas d'approuver cette fierté, du tout. Au contraire, je dis non.
Est-ce que le mouvement de la résistance était important à Bourg-en-Bresse?
Ah oui, 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 pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y avait de l'Estrin, qui est le général de l'Estrin, qui était le chef de la résistance de la France qui est le temps. Et puis que bon, qu'il y a eu l'imprimerie clandestine, c'est important. Non, la résistance dans l'art est très importante. Alors, non, ça ne se traduit pas. C'est une chose qui est peut-être là aussi difficile à exprimer. Parce que vous avez peut-être le sentiment qu'on n'a pas fait grand-chose à la résistance. On a distribué des tracts. Mais en réalité, on se préparait à la guerre. Les réseaux de distance étaient créés pour aider les armées alliées quand elles débarqueraient. Alors, il y a eu au début des attaques par certains groupes de résistance contre les Allemands, mais qui ont entraîné des représailles extrêmement sévères. Autrement dit, la résistance a dû accepter d'écarter les attaques contre les Allemands. Donc, de n'attaquer que les biens. Il ne fallait pas non plus que ça laisse trop la population française, non plus. Alors, j'allais dire, on s'est contenté de se préparer. Alors, préparer, ça veut dire élargir notre groupe, donc par la diffusion de nos tracts, documents et autres, par le maniement d'armes, par des sabotages à droite et à gauche. C'était ça. Alors, c'est sûr que si vous comparez cette résistance avec la résistance yougoslave, par exemple, qu'on ne connaît pas beaucoup en France, où Tito a réussi à résister à des armées entières allemandes, dans un pays très différent, sur un pays extrêmement montagneux, difficile d'accès, etc. Alors, vous pouvez penser que peut-être, non, le peut-être, il tient surtout au petit nombre de résistants. Ça, je voudrais... Aujourd'hui, on a l'impression que la France a été résistante. Bon, ben, c'est faux, c'est faux. Bon, je ne vais pas... je ne vais pas non plus... trop mieux de choses. Mais il est incontestable que la France a été très peu résistante. Bon, Pétain réunissait encore 1 million de personnes. Combien? 1 mois avant le débarquement. Bon, c'est sûr. Il y avait une foule de gens qui ont... D'abord, je ne parle pas de ceux qui ont profité, mais de gens qui sont restés neutres en disant, nous, on est bien, calme, on reste là. Alors parmi eux, il y en a quelques-uns qui sont décidés au dernier moment, qui ont été ce qu'on a appelé, nous, les résistants de dernière heure, pour qui on avait, nous, une certaine condescendance. Moi, 50 ans après en plus, je me dis qu'ils se sont engagés. D'accord. Mais malgré tout, ça représentait quand même une fraction très limitée de la population. On ne le dit pas trop. On ne le dit pas trop parce qu'il y a des problèmes de famille, on ne veut pas. C'est très pénible. Les gens qui s'aperçoivent tout d'un coup qu'ils avaient un parent, un grand-père qui a traîné dans la collaboration. Il ne faut pas tomber ça. regardez les Allemands, hein, avec leurs problèmes, les problèmes qui sont avec le nazisme. Hein. Ils essayent de contrôler, hein, ils remuent pas de face. Le manuel d'histoire franco-allemand, hein, ils minimisent quand même un peu trop ce qui est non pas seulement une passivité, comme c'est le cas des non-résistants dont je parle, mais là, c'est des gens qui commettaient des crimes. Et ça, il occulte, parce que effectivement, il faut vivre avec son temps. Nous, il nous appartient de dire ce qui était notre vérité, mais sans être obligé d'aller la chanter, ni de nous glorifier, bien entendu, ni d'accabler les gens ou les familles de ceux qui n'étaient pas dans la droite ligne. Mais, oui. Non, j'affirme ça. Les résistants, au début, extrêmement peu nombreux, et à la fin, encore peu nombreux. Pardon, excusez-moi, je...
Est-ce que vous montrez encore aussi aux Allemands ou est-ce que vous avez tourné la page?
Ah, oula. D'abord, les Allemands... Qu'est-ce que ça veut dire, les Allemands? Il m'est arrivé une curieuse aventure. C'était en quelle année? C'était en 65-66. J'étais en Espagne, à Peñíscola, je ne sais pas si vous connaissez Peñíscola. C'est une très jolie Peñíscola, je campais avec ma femme maison. Et puis un jour, je suis parti marcher avec elle, long d'une côte rocheuse qui est magnifique. Et j'arrive sur une petite plage, une grande crique, si vous voulez. Et je vois un type là, un beau type, bien balancé, qui était tout seul, et qui paraissait chercher. Alors, bon, je lui demande si c'est ce qu'il cherchait. C'est un Allemand. Alors, il dit, je suis parti en kayak, sur du kayak sur la mer. L'orage est arrivé. J'ai été recueilli par un chalutier espagnol. On a pris mon kayak en morgue, mais mon kayak, c'est démantibulé. Et je cherche les éléments constitutifs, c'est un kayak remontable, pour le refabriquer. Bon, alors, on cherche avec lui. Puis on s'éloigne. Bon. Puis il arrive un moment où il dit, bon ben, ça y est, je ne trouverai pas autre chose, je vais trouver. Alors on s'est éloigné, bon, alors il demande où on était. On était à une dizaine de kilomètres. Oh ben, il me dit, si vous voulez, je vais vous ramener, je suis en voiture, je vous ramène. Bon, d'accord. Il monte sa voiture, c'est une sorte de break. Alors il y avait une jeune fille, qui monte en break, on part. Il fait faire un grand tour parce que la côte est très, très rocheuse, il n'y a pas tout direct. Et puis tout d'un coup, il me dit, vous savez, je suis un ancien Waffen-SS. Alors, bon, un moment de silence. Je dis, moi, je suis un ancien résistant. J'ai été déporté en Allemagne. Et je me dis, j'ai qu'une solution, c'est de lui dire, vous arrêtez là. Je dis ça. Mais j'étais avec ma femme. Et on était à ce moment-là, il y avait au moins 20 km à pied. J'hésite au moins un instant. Et puis il me dit, mais écoutez, moi, je suis allemand. Mon père est allemand. Je m'appelle von Prinz. Je me rappelle très bien son nom, ça ne va pas se faire tenir. Mais ma mère est australienne. Et il se trouve que, quand la guerre a éclaté, j'étais en Allemagne. J'aurais tout aussi bien pu être en Australie. D'ailleurs, ma fille qui est derrière vous parle mieux l'anglais que l'allemand. Elle me dit, moi, quand j'étais assez attentif, que je suis rentré comme tout le monde aux jeunes citoyennes, et quand j'ai eu 16 ans, j'étais versé d'autorité dans les Waffen-SS. Et après 3 mois d'entraînement, je me suis retrouvé face aux Canadiens du département. Et les Canadiens, c'était pas détendre. Je me suis retrouvé en face des Canadiens. Eh bien, oui, je suis un physicien. Il me dit, moi, aujourd'hui, ma fille, qui devrait avoir 18 ans, je la considère bien comme une enfant, excusez-moi, c'est pas vrai. Et il ne me vient pas à l'esprit de penser qu'elle pourrait participer à un conflit. Eh bien, moi, à 16 ans, je me battais contre les Canadiens. Faire quoi ? Rien. Il nous a accompagnés au cocon, puis je le serai en m'emportant. Je n'avais pas de solution. Qu'est-ce que j'avais à lui reprocher ? Il avait porté l'uniforme de la française. Mais les Waffen-SS, ce qu'on leur reproche, on leur reproche les Einsatzgruppen, on leur reproche les gardes dans les camps, on leur reproche un atrocité. Manifestement, lui, il n'a pas eu le temps de faire ça. Alors, ce qu'il aurait fait, je ne sais rien. Mais je ne peux pas, en tout cas, lui reprocher. Et ça vous explique que, bon, bien sûr, je vais vous dire autre chose. J'ai été interrogé à 3 reprises. Interrogé, oui. Bon, je vais parler un peu de ce que vous dites, interrogé. Mais en plus, je me suis tabassé à coups de matraque et de cravache. Hein, parce que j'étais là aussi un peu imprudent. Enfin, un médecin nous disait, qu'on disait que des enfants dégénérés. Je dis que mon père et mon oncle étaient deux médecins militaires. Alors bon, j'ai pris une procès sérieuse, j'en ai encore des marques aujourd'hui, y compris dans ma foi. Et je me suis dit, si je retrouve ce type, hein, je lui rends dedans. Alors, vous voyez ce que ça signifie. Ça veut dire que, implicitement, je croyais d'abord que j'aurais le dessus. Ce qui est peut-être vrai aujourd'hui, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais ce qui n'était pas absolument certain, c'était peut-être un maître de la bataille de rue. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait ? En admettant même que j'ai pu le tabasser, je ne l'aurais pas tué. Hein ? Bon. Je serais parti. Il faut effectivement punir. Il y a un délai au-delà duquel, bon, sauf cas extrême, bien sûr, il y a prescription. Alors, la prescription vis-à-vis de l'ensemble de l'Allemagne, à l'évidence. Non, j'ai aucun scrupule à dire que les Allemands sont des gens qui sont parmi les plus proches de nous. D'abord, soyons clairs. L'Allemagne, dans les années 30, était une des nations les plus brillantes du monde, sinon la nation la plus brillante du monde. Vous vous rendez compte de la quantité de savants, de penseurs d'Allemagne. C'est invraisemblable. Regardez bien. Hein. Regardez d'où ils viennent. Hein. Toutes les études. Enfin, penchez-vous là-dessus, vous verrez la quantité de savants et de penseurs allemands. Et ils ont sombré dans cette hérésie du nazisme. Mais bon, il y a eu un moment. Autrement dit, nous, on est susceptibles de tomber dans des excès de ce type. N'ayons pas une confiance absolue, mes hommes. Non, il faut du contrôle. Mais là aussi, je vous répète, engagez-vous. C'est pour ça que vous engagez. Créer des noyaux de résistance, des noyaux de lucidité. Il faut de la vigilance. Bon, c'est... J'ai répondu à votre question.
Vas-y.
Et mis à part votre partie grande ici, si vous regrettez un document...
Est-ce que vous regrettez quelque chose, enfin, un moment dans ce passage, mis à part le fait que vous étiez clandestin? Bon, la clandestinité, une fierté mal placée. Que je regrette, bon, je ne peux pas dire je regrette. Ça n'a pas eu, il se trouve que la clandestinité n'a pas eu de conséquences. Bon, alors... Je peux pas le regretter. Je me sens un peu ridicule, c'est tout. Mais non, je suis rentré. Hein. J'ai fait une croisière hein, comme aucune d'entre vous n'en fera une. Hein. Où j'ai profité de chaque instant pendant un temps parfait, où j'avais même pas besoin de me reposer ni de dormir, où j'étais complètement maître de moi, hein, et dans des paysages qui sont les plus beaux du monde. Bon, oui. Ulysse. Oui, j'aurais été heureux comme Ulysse si. Plein d'usages et raisons. Vous connaissez. Hein. Je passais entre mes parents le reste de mon âge. Lui, Ulysse, il a su faire ça. C'est bien. Moi, j'ai pas su. Je me demande d'ailleurs comment il a pu faire. Il est certain que ma vie a été marquée profondément en quelques mots. Bon, je me suis évadé avec des truands. Bon. Parce que je n'avais pas trouvé d'onde, excepté en terminant une aventure comme celle-ci. Alors, j'ai des insultes quand même, mais ça se compte. Parmi ces truands, il y en avait deux. Il y en avait un qui était très authentique, qui était respecté par tous et qui était mon copain. Et il avait aussi un copain avec lui, qui était un gars qui avait une grosse tête, des cheveux ras et raides, qui faisait malingre, qui avait l'impression qu'il allait tomber à chaque pas. Tous les deux, ils ont été condamnés à passer un mois au camp de Blenheim, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui est un dépendant d'Auschwitz. Alors, il est certain que leur vie tenait à un fil. Il y a un moment où ils faisaient la queue, comme c'est toujours, pour toucher leur nourriture. La nourriture, c'était une espèce de soupe claire, avec un bloc de pain. Hein. Le bloc de pain, c'était l'essentiel, la nourriture. Et à côté d'eux, il y avait un grand gaillard qui a fauché la boule de pain du copain de mon copain. Ça signifiait presque la mort. Hein. Un jour de manger. Et mon copain s'est retourné. Et il a mis KO d'un seul coup. Il était très efficace. Et le gars est tombé. Les capots sont arrivés. Ils ont demandé ce qui se passait. Tout le monde a dit qu'il avait glissé. Hein. Mais ça n'empêche pas que lui, mon copain, il a risqué sa vie. Sa vie. Ça, c'était sa vie. Hein. Un acte comme celui-ci, ça ne pardonnait pas. Autrement dit, cet homme était capable, uniquement, pour aider son copain, de risquer sa vie. Remarquable, je me suis évadé avec eux. Alors, bon, il est certain que cette espèce de code d'honneur qui existe, hein, bon, qui vaut ce qu'il vaut, hein, on peut en reparler. Mais il avait quelque chose pour moi qui parlait très fort. Alors, je suis rentré, j'ai repris mes études, j'ai repassé mon bac, puisque j'étais interrompu, j'ai repassé mon bac, je suis rentré dans une grande école, et puis j'ai fait un an, et puis la deuxième année, j'avais plus envie. J'ai appris à travailler. Je constatais que les filles étaient très jolies. Bien. Oui. Et j'étais en fait proche de la délinquance. Je n'étais pas assez méchant pour être délinquant. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Alors j'ai abandonné mes études. Tout le monde, j'ai pourtant eu des offres intéressantes. Et puis j'ai rencontré ma femme. Et ma femme m'a dit, tu peux continuer comme ça. J'ai refait une autre école. Et puis j'ai... Ouais, mais ma vie, là, à côté de ce moment, a été considérablement perturbée.
Et vos parents, et peut-être vos frères et sœurs, qui sont dans l'église, ils l'ont vécu comment?
Pardon, mes parents.
Vos parents, et vos frères et sœurs ont vécu comment?
J'étais ennuyé vis-à-vis de mes parents. Parce que je les impliquais, de fait. Si j'avais été arrêté, il est vraisemblable qu'ils en auraient subi des conséquences considérables. Mes parents étaient au courant, pas dans le détail, je m'abstenais dans le détail, mais je leur parlais de mes convictions, je leur montrais les ouvrages. C'est un gros problème de s'engager comme ça. Il y a eu des cas de parents ou de frères et sœurs qui ont été arrêtés du fait d'un fils ou d'un frère et sœur. Et c'est dramatique, ça. J'avoue que j'aurais énormément souffert si on avait arrêté mes parents en me cherchant. C'est un des problèmes posés par l'existence. Quand on s'engage, on implique toujours un peu les autres, mais dans ce type d'engagement, bien sûr, qui est vie et mort, c'est grave. Là, si j'ai effectivement interrompu mes études, c'est en partie cause de ça. Je suis rentré d'Allemagne porteur de deux vérités. La première, je connaissais l'existence d'Auschwitz et je savais qu'il y a eu au moins 1 ou 2 millions de morts gazés et brûlés. Pour moi, c'était une certitude absolue. Quand je suis rentré en 1945 et que j'ai dit ça, on s'est dit, il délire, quoi, il en rajoute. C'est pénible, hein, très pénible, très pénible. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vécu 4 mois avec les Russes, dont 2 mois en Pologne. Et en Pologne, qui est occupée, vous vous rappelez que, en 1939, l'Allemagne, la Russie, c'était partie de la Pologne. Il y avait donc des Polonais vécus sous le régime russe. Et ils l'avaient bien pénétré. Ils avaient compris ce que c'était. Et ils m'ont expliqué. J'ai eu des contacts extrêmement riches. Si bien que le communisme, pourquoi pas, mais le stalinisme, non. Et je vous ai parlé tout à l'heure de mon ami Marcel Rosette qui me montre la photo. Marcel Rosette est devenu membre du comité central du Parti communiste et il était le patron de l'école des cadres des communistes. Et quand je lui ai dit ça, il m'a envoyé une lettre qu'il avait intitulée Cher idéaliste, c'était, Marcel Rosette était un ami très proche, hein, moi j'avais 2 copains. Mais un tiers de mes pensionnaires, c'était lui et un autre. Il n'était pas question de se brouiller, mais oui, effectivement, c'était un point de dissension. Alors, je ne parle pas des autres, lui encore, il faut m'écouter. Personne ne voulait penser un instant à ce qu'était réellement le stalinisme. Ce qui diffère du communisme, hein, je m'exprime bien. Mais je reconnais aux communistes, je reconnais au stalinisme, Stalingrad. Peut-être que s'il n'avait pas été armé de cette façon-là, les choses seraient déroulées autrement aussi. Enfin, on lui doit Stalingrad. Et en tout cas, je peux réaffirmer à quel point je suis redevable. Hein, de ce que je suis redevable à l'armée rouge. Je précise que je suis rentré en France en uniforme de l'armée rouge. Où j'ai rencontré d'ailleurs des gens. Quand ils avaient des aventures, on ne finira pas par raconter des aventures. Ah, l'homme va parler.
Vous étiez où au moment de la libération ?
Pardon ?
Au moment de la libération, vous étiez où ?
Au moment de la libération, on était dans un camp, ce qui est actuellement l'Ukraine, au bord d'une rivière qui s'appelle le Boug. Qui n'était pas très loin. On était dans un camp fermé. Il y avait, à l'entrée du camp, des gardes en armes. Et quand on s'est approché, en souriant, les uns ou les autres, ils ont dit non, ils étaient prêts à tirer. Mais ils nous ont dit, vous savez, là-bas, derrière, il y a une brèche dans le mur. C'est pas nous. Bon, alors, on est donc sorti par la brèche du mur. Évidemment, il y avait un certain risque à aller se balader dans un pays qui était pas la Pologne, qui était donc l'URSS. Alors on était sortis ce jour-là, et on s'est retrouvés au bord du bout, où on avait fait le pari, il y avait un nous, qui avait décidé, c'était donc le 8 mai, mais le 8 mai, là-bas, il ne fait pas très chaud. Il y avait un qui avait décidé de nager 10 brasses si on lui offrait 4 cigarettes, je dis bien. Et il est en train de sortir de l'auto rouge quand on a entendu des coups de feu partout. Alors, bon, il y a même quelques balles qui sifflaient. On dit, est-ce que nous, sur nos comptes, c'est pas possible bon. Et puis, on a pris conscience qu'il pouvait être un tir joyeux. Et on a appris que c'était le 8 mai. Mais là aussi, vous savez, quand on est dans cet état, l'émotion, elle est morte. Oui, on était contents. Oui. C'est tout. D'abord, il faut dire qu'on avait quand même une inquiétude. On était donc en URSS. On nous avait dit le goulag, donc c'est la Sibérie, c'est-à-dire la direction de Kiev. Et on ne savait pas dans quelle direction on allait partir. Et ensuite, quand on est finalement monté dans le train, et qu'on est arrivé à l'embranchement de Kiev ou d'Odessa, eh bien, on était prêts à sauter du train. Mais on a fait un désert, et donc, on n'a pas sauté du train. Mais on avait quand même cette crainte du goulag. C'est pour ça que peut-être aussi notre choix était limité. Mais de toute façon, vous savez, là, oui, on était contents. Vous parlez de la population française.
Oui.
Oh, vous savez, ça a beaucoup changé au cours des années. Ça a quand même duré 4 ans. Alors, au début, il ne fallait pas dire. Hein. Non, c'était très mal vu. On était des terroristes, éventuellement. Hein. Si on peut redéfinir le mot terrorisme. Et pendant, au moins 2 ans. Hein. Après, ça a changé un petit peu, pas beaucoup. Ça a commencé à changer en 1944. C'est 6 mois avant la libération. Mais, je vous le répète, Pétain a quand même réussi à réunir 1 million de personnes un mois avant le débarquement. Bon, je porte très bruit.
Non, c'était la foule qui était
venue. Oui, il a fait une manifestation, puis les gens étaient venus l'applaudir. Hein. Marc bien que De Gaulle l'a réuni, lui aussi, en 1 million de personnes.
Et c'était peut-être les mêmes en partie.
À 2 mois près, peut-être. Il y avait une partie des mêmes.
Il y avait peut-être des mêmes personnes.
On peut penser. Je vous prie de m'excuser.
Et de truands.
Alors, vous avez ça, j'ai nourri un complexe, jusqu'à maintenant. Parce que je me suis dit, je les lâche. Hein. Il a peut-être une chance d'en sortir. Puis d'un autre côté, je me suis dit, si je reprends contact avec lui, à l'époque, je me le suis dit, moi j'avais des enfants, qu'est-ce qu'il va me demander comme service ? J'avais pourtant confiance en lui. Mais confiance, oui, mais c'était mes enfants qui étaient en cause. Hein. Alors, j'ai repoussé comme ça. Et puis un jour, c'était en 1968 à peu près, je lisais François. Et dans François, il y a un petit article, grand comme ça, où on disait que la police, je m'en plus c'était à la recherche ou à la retraite, un truand notoire, Georges Jaconelli, fortement suspecté d'avoir mitraillé un magasin qui refusait de payer la vie. Il a eu les honneurs de François. Alors bon, il a sans doute fait quelque chose de tôle. J'aurais pu aller en tôle, je l'ai appris tant de temps, j'aurais pu. Mais non, je ne l'ai pas fait. Mais j'en parlais il n'y a pas longtemps. Oui, je regrette. J'aurais peut-être plus d'un coup. Hein, c'est peut-être. Je pense qu'il était très droit dans son chemin. Et qu'il ne m'aurait pas gêné. Mais je n'ai pas voulu prendre le risque. Mais j'y pense souvent. Je me rappelle une discussion quand il m'apprenait le combat de rue. Moi, j'étais physiquement assez fort. Bon, à l'heure actuelle, vous êtes tous plus en point. Mais à cette époque, j'étais moyen. Et j'étais assez fort physiquement. Et je me suis rendu compte, à son contact, à quel point ce n'était pas suffisant pour se battre. Alors, par contre, là, il m'a donné des leçons. Gentiment. Il n'a pas dû en donner à beaucoup. Il m'avait une grande confiance en moi. Il m'a expliqué comment il fallait se battre dans la rue. Alors, si bien que... Oui, je saurais peut-être. Maintenant, je ne pourrais pas.
Qu'est-ce
que je pense
de la nouvelle génération?
Ah, jugement. Écoutez, moi... J'entends dire beaucoup de mal des nouvelles générations. Et moi, j'ai un exemple précis. C'est que depuis 13-14 ans, je viens très bien comme ça avec un lycée. Et je tiens à vous remercier et à rendre hommage à votre attention, à votre gentillesse. Bon, je ne dis pas ça pour continuer à être gentil avec moi. J'aimerais bien. Mais je ne dis pas ça pour ça, c'est pas pour complaisance. Mais je suis incontestablement surpris, moi, qui ai parfois la peine à m'exprimer, de l'attention que vous me prêtez. Hein? Alors, moi, j'ai une opinion extrêmement positive. Alors, bien sûr, il y a le problème de l'éducation nationale, mais ça, c'est un problème. Hein? Avec tout ce qu'on a tout ce qui aujourd'hui, c'est autre chose. Hein? Mais si vous me parlez des gens que je connais, et dans ce domaine, c'est surtout ici au lycée, bon... À la maison, j'ai mes petits-enfants, bien sûr, qui sont dans certaines formes de votre âge. Mais les petits-enfants, c'est pas tout à fait pareil. Mes enfants, ils sont très bien aussi. Mais bon, d'autres que les petits-enfants, c'est surtout vous. Eh bien oui, j'apprécie, même si vous ne posez pas tous des questions. Mais oui, j'apprécie. Et je vois d'ailleurs pas de raison de douter. Si je vous répète que je me sens le devoir, d'intervenir comme ça, pour vous dire, faites attention, pour dire, soyez pas mou. Hein, vivez votre vie intensément. Oui. Ne risquez pas votre vie surtout, mais vivez intensément votre vie. Oui, ça c'est. Hein, vous laissez pas aller. Quel que soit votre âge, même quand vous serez très vieux, très vieille. Hein. C'est triste de ne pas avoir de projet. Il faut nourrir des projets. Il faut en avoir beaucoup. On ne les réalise pas tous. Et il faut les entretenir. Hein, les créer et puis les entretenir. Et moi, je n'ai aucune notion de pensée. Je ne peux pas porter ça. D'abord, là, il n'y a qu'à voir des questions. Vous faites de l'informatique. Moi, j'ai un peu de peine. Je suis en train de reprendre mes leçons. Et je ne sais pas. Enfin, bon. Alors que vous réussissez bien. Bon, mais les petits-enfants, ils viennent chez moi. Ils ont une grande facilité. C'est pas votre seule vertu. Et je vous ai parlé de projet. Quand on fait quelque chose, on pense, on se dit, c'est pour que ça serve. Mais il faut savoir se contenter de peu. Il y a une époque, on disait, the small is beautiful. Hein, ce qui est petit et bien, c'est l'époque 68 ans, 68. Hein, c'est en partie vrai. Il faut accepter de faire des choses petites. S'engager, oui, mais quand je suis engagé, je ne dis pas forcément avoir un gros truc. Hein. Non. Mais faites des choses. Faites. Hein. Et quand on fait, on se construit. On se construit. Attention, on risque, on peut aussi s'enfermer. Hein. C'est complexe. Mais il n'y a pas de doute qu'on se construit en faisant. Pour moi, c'est presque une raison de vie.
Est-ce que tous vos amis ont commencé l'Allemagne ?
Oui, pratiquement tous, dans des états différents. Pratiquement tous, du moins tous ceux qui ont été arrêtés avec moi. Les autres, pas tous. Il y a eu surtout des morts qui ont été arrêtés et qui ont été morts torturés, fusillés, morts au combat. Mais ceux qui ont été arrêtés avec moi, oui, il y a des fois que ça a été difficile, mais tout le monde est rentré. Je ne vous ai pas parlé, mais pardon, vous avez des questions. Oui, je vous ai parlé rapidement d'un autiste et puis d'un mitrailleur. Je vous ai dit que maintenant, interrogé trois fois. La deuxième fois, c'est assez étonnant. On vient me tirer de mon cellule là, et puis on mène de capitaine Namis, et qui me dit « Alors Figuier, tu étais au courant du département ?» Je vous rappelle que j'ai été arrêté, on a été le 5 juin, et le département c'était le 6 juin. Hein. Alors il dit « Tu étais au courant du département ?» Je dis « J'en ai la preuve. » Je dis « C'est pas possible. » Il dit « Et ça ?» Alors il me bandit un doigt, oui, une feuille. Je regarde, pas très bien. Alors c'était un doigt d'anglais. Notre prof d'anglais, qui n'était pas résistant, mais qui était un peu malicieux, nous avait fait traduire un texte qui est les départements des anglais sur les côtes de France. Et pourquoi est-ce que ce texte traînait dans mes poches, je ne sais rien. Mais quand l'aumônier du lycée, soucieux, nous a enfermés dans nos cellules. C'est-à-dire, il faut que je leur envoie des vêtements. Il m'a envoyé un blouson. Et dans ce blouson, il y avait ce texte-là. Vous direz, je vais d'ailleurs pas mal de fautes, parce qu'en anglais, je regrette, mais je n'étais pas très brillant. Alors, je lui dis, j'ai l'air de rigoler. Il me dit de vous dire que chaque fois, c'était ponctué, bien sûr, pas l'interrogatoire, c'est ça. L'interrogatoire, c'est pas seulement une petite discussion. C'est aussi une discussion, mais c'est autre chose. Enfin, bref. Et, il ne voulait pas en démordre. Il était persuadé que c'était un langage crypté. Et, difficile de... Mais alors, vous comprenez que, à partir de ce moment-là, je n'avais, moi, aucun moyen de dire à l'aumônier du lycée, ni à personne d'autre, qu'il ne fallait surtout pas m'apporter le pantalon qui était sur ma table de nuit. Que dedans, il y avait l'antiste de maniement du fusil mitrailleur. Et que toute mon alimentation, tout ce que j'opposais aux miliciens qui m'interrogeaient, ça s'effondrait complètement si j'avais en mes mains la notice de maniement du fusil mitrailleur, qui était extrêmement redoutable, et qui pouvait incontestablement que j'avais des relations avec le monde de la résistance et le monde armé. Et j'ai vécu des jours très difficiles. Il m'était impossible de prendre quoi que ce soit, d'en parler à qui que ce soit. Si bien que quand on nous a dit qu'on transfère en Allemagne, je m'en rappelle très bien, on nous a mis dans le train à Bourg, les miliciens nous ont emmenés, nous ont confié à des gendarmes. Et quand le train a démarré, et qu'il a franchi le pont, j'ai respiré, je me suis allongé sur la banquette, je me suis dit, ça y est, je suis délivré de ça. C'était effectivement très grave. Ça a une autre conséquence, c'est que je me suis senti de mon bien-être tel que j'avais là une occasion excellente de m'évader et que je ne l'ai pas saisie. Ouais, j'y repensais souvent, mais j'étais dans le bien-être. Voilà. C'est pour cette journée-là, du moins. Mais, oui, l'angoisse, c'est cela. On m'a rappelé pendant l'interrogatoire pour autre chose. Et quand on m'a appelé là, c'était très difficile. Et c'était pas pour ça. Et on m'a appelé une troisième fois, quand mon père est venu me voir. Et là aussi, quand on m'a appelé, j'étais inquiet. Bon, enfin, voilà l'histoire de ma notice et des interrogatoires. Alors, interrogatoire, c'est un dialogue, l'interrogatoire. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est une des choses qui m'a le plus marqué, que j'inscrivais à mon actif. Un interrogatoire, vous n'avez pas de solution, vous êtes obligé d'avoir le front bas. Il ne faut pas faire le malin. Si vous faites le malin, vous faites écraser. Mais il faut évidemment avoir l'essence complètement en éveil. Et il y a des choses que j'ose pas dire de façon dont je les analyse. Tellement c'est subtil. Mais bon, ça m'a réussi. J'ai peut-être eu la chance, mais bon, aussi la présence d'esprit. Alors, quand D'Agostini m'a demandé pourquoi j'étais rentré à la résistance, et je lui ai répondu quelque chose comme il m'est difficilement supportable que mon pays soit occupé par une puissance étrangère. Or, les miliciens se disaient neutres, se disaient, nous ne sommes surtout pas pro-allemands. Alors, ils ont compris, ils pouvaient comprendre ça. C'est un langage qu'ils pouvaient comprendre. Et, oui. Ils m'ont jamais dit qui m'avait accusé d'être chef de système, pourtant ils le savaient. puisque l'un d'eux, ne serait-ce que le type qui m'a tapé dessus, sans motif, a commencé par me dire « toi, je suis de Suzanne », donc il le savait. Mais je suppose que, tout comme il m'en avait fait la proposition à moi, il avait dit à quelqu'un « allez, dis-nous, et puis on ne dira pas que tu nous l'as dit ». Je suppose que c'est ça. Bon, il y a aussi celui qui a été blessé, qui lui a été obligé d'avouer, mais je ne peux pas le voir. C'est dur pour lui, là. Il n'a pas de patience, tristement aussi. Hein. Il a, je précise que par la suite, il s'est engagé dans la milice, mais qu'aussitôt, il a déserté, qu'il a rejoint le maquis. Alors, moi, j'aurais souhaité le rencontrer. Et il m'a évité. Je ne l'ai revu que 3 semaines avant sa mort. Je regrette, je voulais lui dire oui, rappeler ce moment difficile, mais pas du tout pour l'en accuser. On avait vécu ensemble ce moment d'une intensité exceptionnelle. Hein, et moi, je pensais lui rappeler, oui, comme d'un souvenir commun. Hein, mais c'est dur pour lui, c'est vrai, aujourd'hui. Quel
journaux ?
Quel journaux ? Oh, on avait des journaux. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je vous sorte. Il y en a quelques-uns que j'avais enterrés chez moi, dans une espèce de grange qui appartenait à mes parents. Mes parents les ont cherchés pendant mon absence. Ils avaient peur que les Allemands ou les miliciens les découvrent. Ah, je les manie avec précaution. Là, fortune de jeunesse. Libération. Ah oui, ça c'était des feuilles simples. Combat. Un autre, libération, qui avait 4 pages. Là, ça c'est des journaux qui suivent. Avril 43. Mai 43. Septembre 43. Ah, mai 43. Voilà les journaux qu'on transportait. Par la suite, ils ont été plutôt plus importants. Ils avaient systématiquement 4 pages.
Est-ce qu'on les jetait à la volée aussi ?
Des tracts, mais pas beaucoup. Pour ce qui me concerne, non. Les tracts, c'est arrivé. Ou les tracts qui étaient attachés, étaient collés.
Ça
fait
sonner.
Je suis à votre disposition.
Ah, ça fait sonner. Oui.